peu de courage et tout sera terminé. Prenez le pieu dans la main gauche, placez la pointe sur le cœur, et au nom de Dieu, frappez, maintenant!
Une fois n'est pas coutume, cette heure devrait être cauchemardesque. Fermez vos fenêtres, méfiez-vous du brouillard, méfiez-vous des loups, méfiez-vous de vous. Méfiez-vous de vos désirs de morsure, les nuits d'automne sont longues. L'éternité est peuplée de créatures monstrueuses, affamées, suceuses de sang, ni mortes ni vivantes, suppôts de Satan. Elles hantent nos imaginaires depuis la nuit des temps. Ne fermez surtout pas les yeux, ça pourrait être encore plus dangereux. N'ayez pas peur, Dracula n'est que le reflet de vous-même. Est-ce que vous saviez que Dracula a été enterré au Père-Lachaise sous un autre nom? C'est une révélation. C'est Jacques Sirgent qui me l'a appris. Jacques Sirgent a une passion pour les vampires en tout genre. Barbara Sadoul aussi, elle les aime, elle les a étudiés sérieusement à l'université. Tout est vampire chez elle. Sa bibliothèque, sa ceinture, son collier. C'est une dent de vampire avec un petit rubis rouge comme une goutte de sang.
Dracula, Dracula, sortant doucement de sa tombe, il va par les nuits les plus sombres, frappé dans son grand manteau noir.
Comment a commencé cette fascination? C'est une fascination que vous avez pour ces vampires.
Je pense que je devais être prédestinée à aimer de toute façon le fantastique, puisque mon père écrivait sur la science-fiction, la bande dessinée. Et puis moi, j'aimais pas dormir dans ma chambre. Je faisais quand même pas mal de cauchemars. Pourtant, ma mère, qui elle avait eu peur petite des histoires de loups, avait toujours interdit qu'on me raconte des histoires affreuses. Même les contes de fées, j'en ai pas eu beaucoup.
Mais... c'est génial, parce qu'en fait, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que votre mère, justement, vous... qui avait très peur de tout ça, vous a évité toutes les histoires qui auraient pu vous faire peur.
Toutes les histoires, et de ne pas m'avoir lu d'histoires de loups quand j'ai fait un doctorat sur les loups-garous, elle a dit ton éducation est donc ratée, en s'amusant beaucoup évidemment de dire ça. Et c'est vrai que je faisais quand même pas mal de cauchemars, et là où j'étais bien, c'était dans la bibliothèque de mon père, au milieu de tous les livres, avec des tas de couvertures, forcément, où il y avait à la fois des jeunes femmes qui pouvaient être comme des héroïnes dans la jungle, donc très sexy, mais aux prises avec un serpent gigantesque ou des couvertures avec Dracula. Et je ne les ai pas lues tout de suite puisque c'était en anglais la plupart.
Ça me fait rire parce que la gamine qui fait beaucoup de cauchemars et qui trouve, elle est jolie cette image-là, refuge dans cette bibliothèque où il y a des tas de personnages très inquiétants. Et vous vous endormiez dans les livres comme ça, vous?
Il y avait juste une petite banquette et il y avait des livres absolument partout, des robots aussi puisque mon père en construisait en mécano. Enfin, il y avait des tas de personnages qui ne sont pas forcément terrifiants justement. Moi, j'aime le fantastique joyeux.
S'il vous arrivait de quitter ces appartements, n'essayez sous aucun prétexte de trouver le sommeil dans quelque autre pièce de ce château. Il est vieux. Il est peuplé de mauvais souvenirs. Je vous aurais prévenu.
Quand j'étais à la fac, j'ai eu un prof qui nous a passé des tas de films, d'extraits de films de vampires. Et du coup, en voyant tous ces extraits de films, je me suis dit, j'ai envie de lire le roman. Donc je me suis plongée dedans.
Dans Dracula.
Dans Dracula.
C'est le premier livre de vampires.
De vampires, oui. Quand j'ai lu ce roman Dracula, Je me suis dit, si je trouve pas un prof qui me fait pas étudier les vampires à la fac, j'arrête mes études et je fais autre chose.
Donc vous êtes à la fac, vous découvrez Dracula.
Ça me passionne complètement. J'arrive pas à m'en décrocher. Et ce qui me plaît vraiment, c'est la façon dont c'est écrit. Là, c'est vraiment un enchevêtrement de lettres, de journaux intimes. Et toutes ces pensées des personnages qui sont extrêmement romantiques. Et où Dracula n'a quasiment pas la parole. Donc on ne sait pas ses pensées. C'est celui qui parle le moins dans le roman. Et en même temps, il est omniprésent. Et donc c'est vrai que c'est un personnage mystérieux, envoûtant. On a envie de savoir qui il est.
Dracula de Bram Stoker, c'est l'image du vampire, c'est le mythe qui se construit, c'est ça ?
Oui, c'est le mythe qui se construit, donc on sait que c'est un personnage donc, qui est mort, qui a une force surhumaine, qui peut hypnotiser les gens, qui peut se dématérialiser à volonté, donc devenir un brouillard, se transformer aussi en loup, enfin ça m'avait bien plu, commander aux éléments aussi.
Ah oui, au début, mais vous dites que c'est un personnage qui est mort. Il est mort, mais...
Un mort vivant. Il est mort, mais il peut ressortir.
Il est ni mort ni vivant, ou il est mort et vivant.
Normalement, son cœur ne bat plus, donc, mais oui, mort vivant, puisque normalement, il se serait relevé du tombeau. Alors, dans ce roman, ce qui est un peu différent de ce qui a été fait ensuite et au cinéma, c'est que Dracula, il peut très bien sortir la journée. La seule chose qui l'embête, hein, c'est qu'il a moins de force, mais il peut sortir de son cercueil, alors qu'on ne voit pas ça au cinéma en général. Dans le roman, il a besoin surtout, quand il voyage, d'emmener la terre natale de son pays.
Voilà. Ça, c'est génial. Donc, il transporte des caisses de terre, des cercueils remplis de terre, c'est ça ?
Voilà, oui. Et puis, bon...
Mais pourquoi il a besoin de cette terre natale ?
On peut imaginer qu'il a besoin d'une partie de lui-même pour continuer à exister. Ça, c'est pas vraiment expliqué. Mais en tout cas, il perd pas toute force. Enfin, c'est pas un vampire qui redoute le soleil comme on le voit dans plein de films où tout d'un coup, il se transforme en poussière. Il y a une bande dessinée comme ça, très drôle, où le vampire est transformé en poussière et sa fille récupère les cendres dans l'aspirateur. Et je crois met quelques gouttes de sang dessus et ça redonne vie à son petit papa.
C'est super. Mais au fait, c'est vrai cette histoire qu'on vous a offert quand vous étiez petite, un petit cercueil, en vous disant qu'à l'intérieur, il y avait les cendres de Dracula. C'est vrai ? Vous l'avez là ?
C'est vrai et je l'ai ressorti pour vous le montrer, donc il est là.
Ah, mais c'est génial, parce que c'est un petit cercueil transparent, en plexiglas, en plastoc.
Évidemment, là, ma mère trouve ça tout à fait affreux, ce qui m'amuse encore plus. Donc, je pense que j'ai gardé en mémoire tous ces détails.
Sûr. Vous y avez cru ?
Non, mais ça m'a beaucoup plu.
Des marques sur sa gorge. Aucune maladie, aucune meurtrissure. Je suis sûr que c'est par là qu'elle a perdu son sang.
Ah, et où est passé le sang ?
Son matelas devrait en être couvert.
Exactement. Ces marques sur la gorge de Lucie ont été faites par une chose indicible et étrangère. Morte, mais non morte. C'est une bête, un monstre.
Sadoul est un collab sur les vampires. Elle les a étudiés très sérieusement à l'université. Elle a fait son mémoire sur la solitude des vampires. Et ce qui l'intéressait particulièrement, c'est de savoir s'il était possible, quand on est éternel, d'avoir bien évidemment un compagnon d'éternité. Les vampires l'accompagnent depuis qu'elle est enfant et elle s'en amuse. Elle est l'auteure de plusieurs recueils de textes sur les vampires. Elle écrit des histoires de vampires, des pièces de théâtre. Les vampires, c'est sa vie. Mais ce soir, c'est du mythe littéraire que l'on parle avec elle, le Dracula de Bram Stoker.
J'avais craint en entreprenant ce journal qu'il ne parte dans toutes les directions. Mais je suis heureux maintenant d'être entré dans les détails parce qu'il y a quelque chose de si étrange en ce lieu. J'aimerais tellement en avoir fini avec tout ceci et être en sécurité dehors. Je souhaiterais même ne jamais être venu ici. Je me dois de décrire les faits tels qu'ils sont. C'est la seule chose qui me fera tenir car mon imagination ne doit pas l'emporter sur ma raison. Si cela devait arriver, je serais perdue. Je dois transcrire les événements tels qu'ils se déroulent ou tels qu'ils me paraissent se dérouler. Je dormis que quelques heures après m'être couché et sentant que je ne retrouverais pas le sommeil, je me levai immédiatement après m'être réveillé. J'avais accroché la petite glace de mon nécessaire de toilette à un montant de la fenêtre et venais juste de commencer à me raser. Brusquement, je sentis une main sur mon épaule et reconnus la voix du comte qui me disait « Bonjour ». Ce n'est pas tant sa voix qui me fit sursauter que le fait de ne pas l'avoir vu entrer, bien que grâce au reflet de la glace, je puisse voir toute l'étendue de la pièce située derrière moi. Je m'étais légèrement entaillé la peau suite à cette réaction nerveuse, mais n'avais rien senti sur le moment. Après avoir rendu son salut au comte Dracula, je me retournai vers la glace pour me rassurer et me prouver que mes yeux m'avaient trahi. Mais cette fois-ci, je dus me rendre à l'évidence, car l'homme se tenait juste à mes côtés. Je pouvais le voir en tournant légèrement la tête, mais il n'y avait pas son reflet dans la glace, alors que toute la pièce derrière moi était visible. Le seul homme que je voyais se refléter, c'était moi. Dracula de Bram Stoker.
Bienvenue dans ma demeure. Entrez ici de votre plein gré et laissez-y un peu de la joie que vous y apportez.
Comte Dracula ?
Je suis Dracula.
Bram Stoker, il a mis 10 ans à écrire Dracula, hein, c'est ce que j'ai lu. C'était pas un écrivain. Et il s'est beaucoup, beaucoup documenté, c'est-à-dire qu'il a fait des recherches sur les vampires avant d'écrire son Dracula.
Et il n'est même pas allé en Transylvanie. Quand il est enfant, en fait, Bram Stoker, il est malade, donc il est très souvent alité. Donc il ne peut pas sortir. En face de chez lui, il y a un parc. Sa sœur, sans doute, elle lui raconte ce qui se passe dehors. Sa mère s'occupe beaucoup de lui. Elle lui raconte aussi des tas de légendes. Donc il a une enfance construite déjà avec des légendes qui peuvent faire un peu peur. Elle lui parle aussi des différentes épidémies qu'il y a eu. Donc ça aussi, ça doit le marquer. Et puis, son père a très envie, lui, qu'il fasse carrière comme lui dans l'administration. Donc quand il guérit enfin, il fait des études. Étonnamment, il devient immense, extrêmement athlète. On l'appelle le géant à barbe rousse. Donc il guérit mystérieusement. Ça, c'est ce que j'en ai retenu, moi, pour écrire mes histoires. Et il est passionné de théâtre. Et en même temps, il a envie d'écrire. Il a un certain nombre d'amis qui lui racontent des légendes dont l'histoire de Vlad Tepes. Et il va pendant 10 ans, à chacune de ses vacances, finalement, faire des recherches au British Museum. Il a pu, à mon avis, s'inspirer déjà de toutes les cartes qu'il y avait au British Museum. Et puis, il a pu s'inspirer aussi de ses différents voyages. Ce qui fait que s'il n'a pas vu le château dans les Carpates, lui, il en a vu un autre que je suis allée voir en Écosse. Donc, c'est à Cruden Bay, c'est un petit village de pêcheurs. Mmh. Et il y a un château en ruine au bord de l'eau. Et c'est vrai qu'en Écosse, quand on voit les châteaux en ruine juste au bord de l'eau ou des falaises, c'est extraordinaire.
Et c'est exactement ce qui est décrit dans Dracula, falaise et le château.
Voilà.
Vous êtes en train de me dire que vous passez aussi vos vacances pour retrouver ces vacances. C'était vraiment des vacances Bram Stoker que vous aviez faites sur les traces de Bram Stoker, c'est ça ?
Je trouve ça toujours vraiment intéressant d'aller où Bram Stoker est allé, là où il a pu être inspiré, comme le cimetière d'Highgate. Alors moi, je ne suis pas très cimetière, hein. J'aime bien les vampires immortels, mais rentrer dans les cimetières, c'est pas mon truc. Je l'ai fait quand même parce que je sais que c'est là où Bram Stoker allait se promener. C'était vraiment intéressant. Alors déjà, il y a des tas de statuettes, des statues immenses de chiens, par exemple, comme s'ils étaient les gardiens d'une tombe. Et plus on avance, plus on arrive à un endroit où il y a comme un portail. Les tombes forment un cercle. Et il paraît que Bram Stoker, en se promenant donc sur l'endroit où, où on pouvait être au-dessus, où il y a un petit pont, il aurait vu quelqu'un partir en courant de là. Et donc ça lui aurait donné l'idée aussi d'une personne qui sort de la tombe à la nuit tombée. En tout cas, forcément, toutes les rencontres qu'il a faites, toutes ces notes qu'il a prises, même les récits des voyageurs du XVIIIe siècle où on commence à dire le mot vampire, forcément, on crée tout cet univers de légendes. Et en même temps, il a transformé ce vampire, puisque dans les légendes, le vampire qui se relève de la terre, il est affreux. Hein. On dit qu'il est gorgé de sang, gros et gras, du sang lui coule par le nez, les oreilles. Franchement, aucune femme ne serait séduite. Donc, il en fait un personnage qui, lui, dans la mort, est normalement extrêmement séduisant, qui a un savoir colossal, c'est-à-dire qu'il n'est pas un zombie qui se rappelle de rien. Il a dû garder le savoir de tous ces siècles, des livres qu'il a lus, de toutes ses rencontres. Il a aussi le pouvoir d'hypnotiser.
Ce qui est très intéressant dans ce que vous dites, c'est que Bram Stoker, il s'est à la fois documenté sur les histoires qu'on racontait à l'époque, et comme vous l'avez souligné, le mot vampire apparaît dans la langue au XVIIIe siècle, mais en fait, des histoires de vampires, il y en a depuis le début de l'humanité. Les hommes ont toujours cru à des drôles de personnages comme ça, qui se seraient relevés après la mort. Ça, c'est depuis la nuit des temps, hein, si
oui,
j'ai bien compris.
Aussi bien donc des personnes qui pourraient s'être relevées, donc il fallait se concilier les morts, c'est-à-dire faire en sorte que les personnes qui étaient mortes ne soient pas fâchés contre vous, on redoutait le retour des morts. Et puis aussi des personnages dans l'Antiquité qui étaient des suceurs de sang, des femmes qui pouvaient être mi-femmes, mi-oiseaux. Enfin, on a les striges, on a les lamies, on a les empuses. Enfin, ils ont des noms, des jolis noms, mais qui sont des personnages effrayants comme Lilith, qui aurait été la première femme d'Adam et qui... Elle aussi, voilà, aurait pu s'en prendre, par exemple, aux enfants, aux nouveau-nés. D'autres envoyaient des rêves aux hommes et sont les succubes et là prenaient toute leur vitalité, donc ils étaient épuisés. Comme
ça fait partie de tout ce qui Bram Stoker a pu lire, tout ce qui a pu l'imprégner.
Je dirais que ce qui a pu l'imprégner, c'était les nouvelles de l'époque sur Jack l'Éventreur. Parce que là, on a quand même aussi dans le vampire ce personnage qui peut être assimilé au serial killer. En tout cas, le vampire apparaît au moment où il y a des peurs. C'est pour ça qu'il ressurgit toujours, c'est pour ça qu'il est immortel, puisqu'il s'imprègne de toutes les peurs des différentes époques. Et c'est vrai que pendant les épidémies de peste, si on peut faire un parallèle, c'est que de toute façon, le vampirisme peut être conçu comme une épidémie. Si Dracula avait réussi à contaminer les personnages londoniens qu'il a choisis, ça aurait pu s'étendre. En tout cas, il a forcément été influencé par les histoires sur les épidémies, puisque ça, sa mère lui en a parlé des épidémies. Donc, le vampire qui propage une sorte de peste, ça, forcément, c'est une idée qui reste dans l'esprit de Bram Stoker. Mais là où, historiquement, ce qui a pu vraiment l'influencer, c'est plutôt, à mon avis, ces cas de personnes qui ont été enterrées vivantes parce qu'on connaissait pas le coma, on connaissait pas bien la catalepsie. Et donc, quand il y avait trop d'épidémies, effectivement, de peste, de choléra, enfin des épidémies, les villageois cherchaient des explications irrationnelles pour essayer de comprendre, eux, leur peur. C'était terrible comme peur de mourir. Donc, ils cherchaient des explications et ils pensaient qu'il y avait peut-être un personnage diabolique qui était responsable de ça. Et donc, on rouvrait des cercueils. On ouvrait des cercueils et si on trouvait des personnes, et forcément, il y en a qui avaient été enterrées vivantes, qui donc s'étaient débattues, qui étaient couvertes de sang, qui avaient griffé le cercueil de l'intérieur. On se disait, c'est un vampire, c'est lui le responsable.
Et ça, c'est parce qu'on enterrait à la va-vite, pour éviter la propagation de l'épidémie, c'est ça ?
Moi, je pense qu'on ne connaissait pas les cas de coma et les cas de catalepsie. Donc, si on pensait que la personne était morte, malheureusement, il paraît que ça arrive encore, que certaines personnes semblent mortes, mais ne le sont pas. Heureusement, c'est de plus en plus rare. Mais ça peut arriver que la personne se réveille, justement, à la morgue.
Au seuil de la mort. Si je t'abandonne ici, tu meurs. Ou tu peux devenir éternellement jeune, mon ami, comme nous le sommes aujourd'hui. Mais tu dois me répondre. Veux-tu venir ou non?
Oui.
Il y a une chose qu'on ne sait pas quand, comme moi, on est novice en vampire. C'est évidemment, j'avais jamais pensé que dans leur éternité, dans leur immortalité, ils grandissent avec le temps. Ils changent avec le temps. C'est-à-dire, ils ne sont pas figés. Ils ne sont pas figés dans un corps, dans une pensée, comme ça, le même pendant 300 ou 400 ans. Pas du tout.
Ils aspirent à quelque chose, mais en même temps, ils n'en sont pas satisfaits.
Ils sont insatisfaits d'être des vampires et ils seraient insatisfaits de redevenir des hommes, c'est ça?
Oui. C'est-à-dire, ils veulent être immortels, mais s'ils sont immortels, après, finalement, ils ne savent plus que faire de cette immortalité. Donc, ils sont à la fois insatiables et ils cherchent toujours quelque chose.
Et insatisfaits.
Oui.
Insatiables et insatisfaits. Mmh. Mais ça leur pose problème, cette immortalité. Comment donner du sens à cette immortalité? Et aussi, autre chose que j'ai trouvée formidable, c'est comment ils doivent s'adapter à chaque époque. Mmh. Et que des fois, c'est difficile, on n'y pense pas comment l'adaptation des vampires peut être difficile. Quand on est un vampire du XVIIe siècle et qu'on se retrouve au XIXe siècle, ben, c'est pas facile, hein?
Oui, ça a été traité vraiment très bien dans un autre roman où il y a un personnage de vampire. Alors lui... Il a cette chance de pouvoir s'adapter à toutes les époques. Donc, il s'endort comme un cas d'hibernation. Et puis, quand il se réveille dans une autre époque, il est capable de s'adapter instantanément. Par contre, son grand drame, c'est d'être le seul de son espèce, visiblement.
Barbara Sadoul est fascinée par les vampires. Elle parle avec bonheur de ces créatures, mais elle est terrorisée à l'idée de traverser un cimetière. Et c'est elle qui m'a donné l'idée de rencontrer Jacques Sirgent pour aller me balader avec lui au Père-Lachaise. Jacques Sirgent est un drôle de bonhomme, habillé tout en noir. Il se dit vampirologue. Il est directeur et créateur du musée des vampires et monstres de l'imaginaire. C'est un érudit, incollable sur les rites sataniques, vampiriques en tout genre. Il sait tout, mais il en a peut-être un peu trop lu ou un peu trop vu. Ce qui est sûr, c'est que je ne suis pas prête d'oublier notre rencontre. C'était au début de l'automne. On avait pris rendez-vous à l'ouverture du Père Lachaise, dans un petit café où il a ses habitudes. Je dois vous dire que Jacques Sirgent va tous les matins au Père Lachaise pour surveiller une tombe. Il soupçonne certaines choses. Je ne peux pas vous en dire plus, mais c'est sérieux. Jacques Sirgent est un drôle de zozo. Amoureux des vampires, lui aussi, il les trouve romantiques. À ses yeux, rien n'est plus beau que l'amour éternel des vampires. Il connaît le Père Lachaise par cœur et surtout, il pense savoir où est enterré Dracula. Ou plutôt, où il aurait été enterré, il n'y a pas encore si longtemps. Balade dans le Père Lachaise à la recherche de la tombe de Dracula, ce jour-là, les corbeaux étaient aussi au rendez-vous. Coïncidence?
On va où là? Parce qu'on est dans le cimetière, c'est très agréable parce que c'est assez tôt le matin, donc il n'y a personne, on est tout seul. Hein. Il n'y a pas encore les groupes de touristes ou les corbillards sont pas là.
Comme par fait exprès, on s'est arrêté devant une tombe que je trouve sublime, une grille, qui est très vieille, qui est rouillée, mais qui est rouillée artistement, comme si elle avait été rouillée exprès.
Oui, c'est-à-dire qu'il y a des très belles couleurs. Voilà. Il y a à la fois de l'ocre, de l'orange et du vert.
Et alors ça, c'est quoi cette couleur comme vert?
Vert de gris.
Voilà, mais au Moyen-Âge, on appelait ça couleur de trépassé revenu, couleur de mort-vivant. Et j'aimerais avoir une grille comme ça, parce qu'elle est magnifique.
Et vous aimeriez avoir une grille de trépassé revenu?
Ah, exactement, oui. Ça me manque.
Ça vous manque de revenir?
Oui. Alors là, on s'avance vers la tombe la plus visitée du Père Lachaise, celle d'Allan Kardec, le maître spirit. Et c'est dans ce coin-là que commencent pour moi les tombes, le coin des vampires, le coin des rituels, le coin des légendes.
Alors c'est pas la même chose, le coin des vampires, le coin des légendes et le coin des rituels. Les vampires, c'est quoi? C'est des personnages de littérature?
Ah, c'est des personnages plus mythiques, plus légendaires, c'est... presque le premier concept dont on puisse prouver l'existence. La croyance aux vampires remonterait à 450 siècles avant Jésus-Christ, en Chine. Les premiers vestiges funéraires qu'on a retrouvés, on a trouvé à un endroit qui s'appelle Shukietien en Chine, dans les années 50, je crois, une quarantaine de squelettes au fond d'une grotte, peints en rouge. À une époque où la peinture n'existait pas, l'écriture non plus, malheureusement, donc on ne sait pas pourquoi l'homme préhistorique peignait ses squelettes en rouge.
Et ?
Alors, Mircea Eliade, grandiose anthropologue, a eu comme idée, qui me paraît cohérente, bien qu'il n'ait pas de preuves, que ce serait un substitut du sang. L'homme préhistorique, l'homme de Néandertal, donnait aux morts le sang dont ils avaient besoin, un semblant de sang, pour qu'ils ne viennent pas prendre le sien. C'était pour se protéger des morts vivants.
Ce que vous êtes en train de me dire, c'est que les hommes ont toujours eu peur des vampires. Depuis la nuit des temps, les hommes ont peur des vampires.
Y a un anthropologue sud-africain qui a découvert l'australopithèque, le chaînon manquant entre nous et le singe, dans les années 30, et qui a écrit « It's the taste for blood that made us human », c'est le goût du sang qui nous a rendu humains. Vous vous rendez compte comme phrase, ça?
Et ça veut dire quoi?
L'ancêtre singe mangeait des baies, il était en Afrique du Sud, des légumes, des fruits, des herbes, et puis un jour, on ne sait pas comment, il a petite goûté, il a trouvé un animal mort, tué par plus grand que lui, il a goûté le sang ou la chair, il s'est dit « Waouh, quel menu !» Et
c'est
il
bon,
a immigré,
c'est ça, bon.
Il a immigré vers l'Afrique centrale, et il s'est dit, mais pour chasser un gibier comme ça, pour que je puisse trouver la nourriture qui me plaît maintenant, il faut que je devienne plus intelligent, plus fort. Et là, il s'est mis sur ses pattes arrière, ça a mis des centaines de milliers d'années. Mais c'est cette motivation-là.
Attendez, c'est, vous êtes en train de me dire que si l'homme, chez un anthropologue, que si l'homme s'est mis debout, si l'homme a évolué, c'est passé de quatre pattes à la position voilà. De quatre pattes à la position debout, pour devenir un bipède, c'est le goût du sang, c'est l'idée d'aller...
C'est la phrase
d'aller...
qu'il utilise, c'est le goût du sang qui nous a rendus humains.
Parce qu'on avait envie de retrouver ce goût-là. Alors, si bon.
La peur du sang. L'homme préhistorique va à la chasse, il se blesse, il se rend compte que la vie s'échappe par la blessure, il blesse un animal, il se rend compte que l'animal court de moins en moins vite, qu'il va pouvoir le pourchasser. Donc il sait très bien que le sang, c'est la vie. C'est peut-être la première idée aussi que l'homme ait eu. Puis il rentre chez lui, il rencontre que sa femme perd son sang une fois par mois, qu'elle est toujours en vie. Donc là, il dit, elle a des pouvoirs que je ne comprends pas, parce que moi, quand je perds mon sang, je meurs. Donc, il l'associe à un pouvoir vampirique. Parce qu'il se demande, mais le sang, elle le récupère où? Et il dit, peut-être, elle me le pique la nuit, quand je dors.
Qu'est-ce qu'il fabrique? Mais il rabote une planche. Mais c'est... C'est un cercueil.
Oh, elle est morte.
Eureka! Morte. Morte. Qui est morte?
Sarah.
Et quand ça?
Comment quand?
Quand est-elle morte?
Oh mon Dieu.
Où est-elle?
Je n'en sais rien.
Mais alors qu'est-ce que tu viens me chanter là? Pourquoi dis-tu qu'elle est morte alors que tu ignores où elle est?
Le cercueil, il est pour elle.
Non, la tienne encore en réserve. Si elle était morte, elle serait déjà dans un cercueil comme les autres vampires, à l'abri de la lumière.
Elle est encore vivante?
Il suffit de réfléchir.
C'est ce qu'il y a de plus beau dans le vampire, c'est le côté amoureux. On veut partager avec quelqu'un qu'on aime une fraction d'immortalité. Partager cette immortalité, vous êtes d'accord? C'est quand même génial. Pas seul, mais il faut pouvoir le partager.
En fait, vous êtes un grand romantique.
C'est ce qui me laisse survivre. Sinon, avec tous les bouquins que je me tape depuis des années, je m'en suicidé depuis longtemps avec tout ce que je lis dedans. Je garde l'espoir, bien sûr. Je lis que des trucs horribles.
Vous lisez que des trucs horribles, vous êtes à fond sur les vampires et tout le tralala, voilà. Mais en fait, vous êtes un grand romantique et vous croyez en l'amour.
Heureusement, je crois que en l'amour, en quelque sorte. Je crois que ça, oui.
Ah, c'est ça. Oui.
Depuis 10 ans, je ne lis plus presque des livres de théologie, datant du 4e, 5e siècle, où on raconte des trucs horribles sur les femmes, hein, les femmes vampires, puisqu'elles entraînent l'homme qu'elles aiment vers l'enfer, au lieu de le laisser s'élever vers le ciel. C'est Dieu qui veut l'exclusivité de l'amour du cœur des fidèles. En gros, donc les gens trouvent refuge dans le vampire, qui est quand même nettement plus humain que le saint et le dieu qu'on leur présente.
Donc, d'une certaine façon, alors là, dans ce cas-là, après le vampire amoureux, le vampire, ce serait la figure de l'émancipation de l'Église et des carcans de l'Église.
La première preuve étant Lilith, la première femme d'Adam, qui pourrait avoir refusé la position du missionnaire et chassé du paradis, et devient le premier démon femelle, un démon vampire, parce qu'elle s'est révoltée. Le vampire est un anarchiste, et un empêcheur de tourner en rond. La sociale que décrivait Aristote. C'est quoi un asocial? C'est quelqu'un qui n'a pas besoin de loi, qui n'a pas besoin de cité, qui n'a pas besoin de famille, qui vit tout seul, qui pense qu'à 3 choses, dormir, aimer, manger. C'est pas un vampire, ça? Mine de rien. Waouh!
Mais alors, ce qui m'intéresse, c'est que donc, vous dites, le vampire est un être subversif.
Parce qu'il veut le bonheur à tout prix. Et le bonheur, c'est subversif. Il y a encore des gens qui me
Le vampire, c'est pas un être malheureux ?
Malheureux, mais pas méchant, pour moi. Le vampire méchant est né avec le Dracula de Stoker. Il est malheureux, mais il n'est pas méchant. C'est pas un misérable, au second sens. Parce que misérable, au départ, voulait dire malheureux.
Mais il veut pas le mal quand il... Non, c'est ça, c'est amoureux. Il veut pas le mal quand il nous croque dans le cou.
D'après toutes les légendes, un vampire, quand il revient, il vient d'abord voir sa famille et ses proches. Des gens qu'il connaît. Parce qu'il ne veut pas être tout seul et qu'il veut leur donner leur part d'immortalité. Parce qu'il ne faut pas oublier que jusqu'au XVIIIe siècle, hein, les gens meurent généralement avant 50 ans. La plupart des enfants meurent à la naissance. Beaucoup d'enfants meurent à la naissance. Donc être vampire, c'est quand même un cadeau. Parce qu'on vit plus longtemps.
Alors c'est Bram Stoker qu'on aurait fait un prédateur ? C'est-à-dire entre ce à quoi on a cru et le roman de Bram Stoker, c'est Bram Stoker qui aurait transformé ce vampire en prédateur ?
Dracula est un roman à code, tout est caché. Alors qu'est-ce qui pousse un type à passer 10 ans de sa vie à écrire un bouquin ?
Et le code, c'est quoi ? Qu'est-ce qui est dit ?
Le mal, c'est pas ce qu'on croit. Regardez pas dans le miroir, c'est pas le mal que vous verrez, c'est vous que vous verrez. Donc lisez entre les lignes, le mal est dans notre cœur. C'est un humaniste, Bram Stoker.
Parce que c'est le seul... Et c'est la première fois dans la mythologie du vampire, c'est dans Dracula la première fois, et c'est Bram Stoker qui a inventé que le vampire n'a pas de reflet dans le miroir. Jusqu'à
Exactement.
Présent, ça n'existait pas.
Non. Il ne s'arrête pas dessus, ça. Il le dit en deux lignes.
Et vous, vous vous servez de ce moment-là, qui est au début du roman, pour dire que ça, c'est, en fait, c'est une allégorie, c'est une métaphore, pour dire que le mal n'est pas à l'extérieur. Ce n'est pas le vampire, mais le mal est en nous.
Est en nous, voilà.
Et c'est pour ça que le vampire n'aurait pas de reflet, parce qu'en fait, c'est nous qu'on devrait voir.
Exactement.
Et que nous, on se voit.
Parce que dans la phrase de Dracula, c'est quand il regarde dans le miroir, il s'attend à voir Dracula, il dit dans le miroir, il n'y avait que moi. Il n'y avait personne d'autre que moi.
Bon, Madame Chacal, non, Chacal, nous devons tous nous mettre au travail, à savoir besoin de votre concours. D'abord, nous devons barricader la fenêtre.
Barricader la fenêtre.
Voilà, bien, bien. Bon, et ensuite, de l'ail. Beaucoup d'ail. Il faut en mettre partout, bien, quelques crucifix. Oui, ben, je vous en prêterai. Bon, demain, je m'occuperai de la transfusion sanguine.
Pardon, la croix brisée. C'est un rituel qui remonte au Moyen-Âge, qui s'est arrêté il y a 50 ans, ça a repris il y a 2 ans.
C'est quoi ?
Mutiler une croix du côté droit.
Et alors ?
C'est pour tuer l'âme de la personne qui est dans la tombe.
Donc c'est des gens qui croient aux vampires ?
Qui croient aux revenants, oui. Il y a 27 anges mutilés au Père Lachaise. Il y a 27 anges mutilés, il y en a 26 à qui on a tranché l'âme.
Il y a 27 anges ?
Oui, en pierre mutilée. Sur 27 anges mutilés, il y en a 26 à qui on a tranché la main, le bras ou l'aile droite, qui empêche la personne enterrée d'aller au ciel.
Donc là, la personne qui est enterrée là ne peut pas monter au ciel ?
Problème, c'est qu'elle est enterrée depuis 2 siècles et la croix a été brisée il y a 2 ans.
Ouais.
En gros, c'est un message aux passants. On est encore là. On peut encore faire le mal.
Et qui fait ce message ?
Je ne sais pas.
J'ai du mal à me concentrer parce que de temps en temps, je vois passer entre
des vampires.
Non, pas des vampires, mais je vois passer entre les tombes des personnages que je trouve tout à fait inquiétants, je tiens à vous dire. Parce que là, il y a deux mecs qui sont passés.
Vous le coupez, ce que je vous dis, là. Hein, d'accord ?
Non, non, mais là, vous allez me faire peur, donc vous me dites rien.
Okay.
Parce que sinon, je m'en vais en cours.
Ouais.
C'est des drôles de gens.
Oui.
Avec des drôles de regards.
Oui, et je sais pourquoi ils sont là. Il y a un type qui a été assassiné il y a 5 semaines, ici.
Ah bon ?
Oui. Non, il y a 3 mois.
Assassiné où ? Là-bas.
Là-bas.
Mais la nuit ou le jour ?
On ne sait pas. Mais je sais pourquoi.
Bon. Mais nous, on risque rien, parce que
non,
moi,
non,
je
non,
me
non.
barre. Hein.
Non, non. Et je vous défendrai.
Ouais, mais excusez-moi, mais ça va peut-être pas suffire. Alors voilà le monsieur. Lui, il est déjà passé.
Oui.
On est en danger ou pas ?
Moi, pas vous.
Quand il nous a vus, il a fait demi-tour.
Oui.
Pourquoi ?
Jordan.
On s'en va ?
Et le type qui s'est fait assassiner, c'est dans ce coin-là. Il a eu le crâne fracassé. Et fracasser un crâne est un rituel. Médiéval, il s'est fait fracasser un crâne devant une tombe où j'ai trouvé une 20aine de chats coupés en morceaux il y a 2 ans. Rituel Samhain, fertilité, fin des moissons d'automne. Est-ce une coïncidence ?
Alors on va aller juste là où on a envie et puis on va vite sortir.
N'ayez pas peur, vous êtes bien sur France Inter et jusqu'à 21h, c'est l'heure des vampires. On continue notre balade dans le Père Lachaise avec Jacques Sirgent et le meilleur est encore à venir.
Voilà, c'est là, l'allée de Dracula.
Pardon ?
L'allée de Dracula, j'appelle ça.
Ici ?
Oui, c'est là. Ah, je parle du personnage historique, Vlad Tepes Dracul, qui a inspiré le Dracula de Bram Stoker. Personnage historique a existé, lui, qui est mort dans une bataille contre les Turcs. En 1476, on n'a jamais retrouvé le corps, personne ne l'a vu mourir. Mais le corps, il est bien quelque part.
Mais il n'est pas en Transylvanie ?
Ah non, il a un tombeau dans l'île de Snago qui est vide.
Donc quand vous dites l'allée de Dracula, ça voudrait dire que Vlad Tepes, celui qui a inspiré
Bram Stoker,
est là ?
D'après mes recherches, oui. J'ai pas de preuves, j'ai des indices très troublants.
Des indices très troublants. Vous avez mis combien d'années pour arriver à cette conclusion ?
Ça fait 6 ans. Mais j'ai mis 1 an pour chercher. Quand on me dit ce que vous dites, est-ce que c'est vrai ? Je me dis quelquefois, c'est les circonstances dans lesquelles on apprend quelque chose qui font que ces faits, même incroyables, sont vrais. C'était le 5 décembre 2005. Je rentre dans un café où je n'avais jamais mis les pieds, un café vieillot. Un beau café. Où il n'y a personne. Je m'avance vers le bar et derrière le bar, je vois quelqu'un et pour la première fois de ma vie, je ne dirais pas que j'ai eu peur, je me suis dit, il est là pour moi. Il va me dire quelque chose rien que pour moi, comme si c'était un décor de théâtre fait pour moi. Il commence à me réciter les métamorphoses du vampire, un poème de Baudelaire qui a fait interdire les fleurs du mal, mine de rien. Et je suis scotché au bar, je me dis, mais pourquoi il me dit ça ? Il sort du bar, il s'approche de moi à me toucher, puis il me dit, mot à mot, vous savez qu'il était enterré au Père Lachaise ? J'ai dit, qui ? Il me dit Dracula. Puis il s'en va prendre une commande en terrasse. Il revient 2 minutes plus tard, je lui donne une carte de visite et je lui dis, écoutez, je reviens dans 3 jours, je vais à une réunion, je ne dis pas que c'est une réunion sur les vampires, et si vous êtes libre, samedi prochain, vous m'expliquez pourquoi vous me dites ça à moi. Je dis d'accord, je vais à mon colloque, je reviens 2 jours plus tard, samedi, je rentre dans le bar, il est là, il passe devant moi comme s'il ne me reconnaissait pas. Je me dis, ça commence mal, je m'assieds, il vient à ma table sans me regarder. Et je lui dis, vous vous souvenez, il y a 3 jours, on est censé dîner ensemble. Il n'a pas l'air enthousiaste, et puis il accepte. Il termine son service 1 demi-heure plus tard, et je viens l'inviter en face au Terminus Nord, qui est la plus grande brasserie du coin, parce que j'ai pas envie qu'on nous écoute, j'ai envie d'être noyé dans la masse. Et au moment de traverser la rue de Dunkerque, il s'arrête, il me dit, je peux pas aller de l'autre côté. Je dis, écoutez, si c'est la brasserie qui vous plaît pas, on va y aller. Il me dit, non, je ne peux pas physiquement traverser la rue. Puis il me fait le coup du mur de Marceau. Il pouvait pas bouger. Je dis, ça commence bien. Vous me proposez quoi ? Il me dit, je connais un endroit. À 200 mètres de là, Il m'emmène à une pizzeria qui est en train de fermer. Il y a une jeune fille qui est en train de baisser un rideau. Elle nous voit, elle lève le rideau, on rentre, elle nous enferme à l'intérieur tous les trois. Puis sans rien nous demander, elle nous sert à manger. Il commence à me parler. Le restaurant est fermé, ouvert uniquement pour nous. Il me dit qu'il ne s'intéresse pas aux vampires, mais qu'il fait partie d'une secte de satanistes et qu'il sait que Vlad Tepes Dracula est enterré au Père-Lachaise, dans un tombeau anonyme, que je ne reconnaîtrai qu'aux trois chauves-souris qui sont dessus, mais que je ne verrai qu'en esprit, parce qu'elles n'y sont pas vraiment. J'ai mis 3 semaines pour trouver.
Et donc les sectes vampiriques, c'est quoi? C'est des gens qui adorent des vampires? C'est quoi?
Qui adorent les vampires?
Mais il y en a aujourd'hui? Des sectes vampiriques?
Ah bah oui.
Mais c'est qui? C'est quoi? Qu'est-ce qu'ils veulent?
Je trouve des preuves, moi. Je trouve des indices, pour ne pas dire preuves.
C'est-à-dire vous voyez des rituels vampiriques?
Oui. Ah oui. Un des rituels les plus simples, quand vous avez peur qu'un vampire soit dans un cimetière, autour de la tombe en question, vous faites fondre des bougies blanches.
Ouais.
La cire blanche protège contre les vampires.
Ouais.
Par exemple, il y a des coins où vous avez des dizaines de tombes qui sont rattachées au thème du vampire uniquement par les noms qui sont sur les tombes. Les vampires n'aiment pas l'eau. Il y a un coin au cimetière où vous avez la famille Rouillet, dans un tombeau en métal, en face de la famille Robinet. La famille Fontaine, la famille des Sept Fontaines, la famille Perrier, la famille Vitel, la famille Marin, la famille Poisson. Ça vous paraît pas bizarre, dans un rayon de 100 mètres? Coïncidence, peut-être. Je lui dis, j'ai pas de preuves, c'est des ensembles d'indices.
Ce tombeau a été ouvert il y a 2 ans.
Lequel?
Celui-là. Vous voyez encore les traces ici sur le côté?
Oui, et ben.
7 cm, ouvert sur 7 cm. Quel intérêt d'ouvrir un tombeau sur 7 cm? C'est pas assez pour descendre, c'est pas assez pour voler, mais c'est assez pour voler l'âme. Il y a des rituels qui consistent à voler l'âme d'un mort, parce que d'après certaines croyances, soit l'âme va au paradis, soit elle va en enfer, soit elle reste dans la tombe. Il suffit d'ouvrir la tombe, vous mettez un sac dessus et l'âme s'engouffre dans le sac.
Ce qui est génial, c'est qu'on a les corbeaux avec nous. Alors là, c'est la totale.
Donc on continue ou pas?
Elle est géniale, celle-là.
Celle-là?
Ah, gémissons. Elle est magnifique. Ouais. C'est une très vieille tombe. Ouais. Donc la porte
est ouverte.
En fer est ouverte. Coïncidence, comme vous diriez. Et au-dessus, il y a écrit, et c'est ça qui est très joli, hein, gémissons, gémissons, gémissons.
Oui, bah, c'est pas la plus optimiste, mais bon, c'est vrai.
As-tu fait tes adieux à la lumière?
Alors, les fameuses chauves-souris que je ne verrai qu'en esprit. Bon, ouais. Il y a 10 ans, elles étaient visibles. Vous voyez en bas à gauche?
Non.
La tête, les oreilles, les ailes, un peu.
Où ça?
Celle-ci.
Ah oui, c'est vrai.
Celle-là a disparu. En bas à droite, vous voyez là?
Ouais.
Faites attention. Replier, les deux oreilles.
Alors attendez, ça c'est la porte toute rouillée.
Oui.
Où là?
La troisième chauve-souris, ce serait celle-là.
Où? Je vois pas. Faut que je m'abaisse?
Les ailes, l'aile pliée, les oreilles.
L'aile pliée?
Et c'est l'aile. Là. Bon, elle est là, mais elle n'est pas là.
Attendez, faut décrire.
Oui.
Là, on est agenouillés devant une tombe.
Et on cherche les trois chauves-souris qui ne sont là qu'en esprit.
Et
donc,
on
elles ne sont pas là. Elles sont là, mais elles ne sont pas là.
On cherche les trois chauves-souris en esprit, donc, devant une porte rouillée,
oui,
de la pierre rongée par,
oui,
la mousse.
C'est ça.
Quelques toiles d'araignée, évidemment, oui, sinon, ce n'est pas drôle.
Oui.
Mais Vlad Tepes, c'était pas un vampire. Vlad Tepes, c'était un...
C'est ça.
C'était un sanguinaire.
Dracula en a fait un vampire.
Donc les sectes vampiriques, pour eux, c'est leur vampire.
Leur idole, c'est ça. Le vampire initial.
Ah vraiment, on est dans l'imagerie. Là, il y a un tombeau d'ouvert, cassé. Oui.
Et là, bon, je ne dis rien. Il n'y a pas quelque chose qui vous étonne, là? Regardez de très près.
Une vieille tombe.
Une vieille tombe, oui, avec des grilles.
Voilà. Et au milieu?
Et au milieu, il y a des pierres avec de la mousse, des herbes. Il y a deux branches d'arbres en forme de croix.
Dans un endroit où il n'y a pas d'arbres. Donc vous voyez les branches tomber comme ça?
Non.
Elles ont été placées comme ça.
Oui.
C'est pas une preuve, c'est un indice.
De quoi?
C'est pas une coïncidence.
Et ça veut dire quoi? Que quelqu'un les a placés?
Oui.
Et ça veut dire quoi, cette croix?
Bah, c'est beaucoup plus discret que la cire blanche, parce que dès qu'il y a la cire blanche, je l'enlève, moi.
Donc vous venez là avec un couteau et vous grattez?
Oui.
Donc, ça, vous pensez que le fait qu'il y ait ces deux branches comme ça en croix...
C'est une forme d'exorcisme sympathique, qui ne fait de mal à personne, encore pour exorciser ça. Mais encore une fois, je ne dis pas que j'ai de preuves. J'ai dit ça, plus ça, plus ça, ça fait des indices troublants, c'est tout.
Jacques.
Oui.
Vous êtes en train de m'expliquer qu'il y a des sectes vampiriques. Mais là, ce que vous êtes en train de me raconter sur ces histoires de tombes, avec les noms de tombes, ça voudrait dire que les vampires existent?
Non, qu'il y a une force. L'explication la plus vraisemblable au vampirisme, c'est la force de l'imagination. Quand vous croyez en quelque chose,
ça existe.
Vous pouvez faire tomber un cavalier à cheval si vous y pensez assez fort. Est-ce que l'imagination est une force? Oui.
Que dire de plus, amis rêveurs? C'est déjà fini. Merci à Barbara Sadoul, merci à Jacques Sirjean. Sur le site de l'émission, plein de livres à lire sur le sujet et l'adresse du musée des vampires et des monstres de l'imaginaire. Vous avez une semaine pour lire Dracula de Bram Stoker ou Entretien avec un vampire de Anne Rice, vous ne le regretterez pas. La semaine prochaine, on continue avec une lecture politique de Dracula avec Jean-Jacques Le Cercle. Vous verrez, c'est réjouissant. À vendredi prochain donc, vendredi 20h, mais ce ne sera pas encore tout à fait l'heure des rêveurs. Bon week-end.